Chapitre 15. Le bouquet de violettes. La paix, comme on a dû le prévoir, ne pouvait habiter longtemps cette demeure si heureuse qui renfermait Geneviève et Maurice. Dans les tempêtes qui déchaînent le vent et la foudre, le nid des colombes est agité avec l'arbre qui les recèle. Geneviève tomba d'un effroi dans un autre. Elle ne craignait plus pour Maison Rouge, elle trembla pour Maurice. Elle connaissait assez son mari pour savoir que, du moment où il avait disparu, il était sauvé. Sûre de son salut, elle trembla pour elle-même. Elle n'osait confier ses douleurs à l'homme le moins timide de cette époque où personne n'avait peur, mais elles apparaissaient manifestes dans ses yeux rougis et sur ses lèvres pâlissantes. Un jour, Maurice entra doucement et, sans que Geneviève, plongée dans une rêverie profonde, l'entendit entrer. Maurice s'arrêta sur le seuil et vit Geneviève assise, immobile, les yeux fixes, ses bras inertes étendus sur ses genoux, sa tête pensive inclinée sur sa poitrine. Il la regarda un instant avec une profonde tristesse, car tout ce qui se passait dans le cœur de la jeune femme lui fut révélé comme s'il eût pu lire jusqu'à sa dernière pensée. Puis, faisant un pas vers elle, « Vous n'aimez plus la France, Geneviève, dit-il, avouez-le-moi, vous fuyez jusqu'à l'air qu'on y respire, et ce n'est pas sans répugnance que vous approchez de la fenêtre. »« Hélas, dit Geneviève, je sais bien que je ne puis vous cacher ma pensée, vous avez deviné juste, Maurice. »« Ah, c'est pourtant un beau pays, dit le jeune homme, la vie y est importante et bien remplie aujourd'hui. » Cette activité bruyante de la tribune, des clubs, des conspirations, rend bien douces les heures du foyer. On aime si ardemment quand on rentre chez soi, avec la crainte de ne plus aimer le lendemain, parce que le lendemain, on aura cessé de vivre. Geneviève secoua la tête. « Pays ingrat à servir, dit-elle. Comment cela ? Oui, vous avez tant fait pour sa liberté, n'êtes-vous pas aujourd'hui à moitié suspect ? « Mais vous, chère Geneviève, dit Maurice, avec un regard ivre d'amour, vous, l'ennemi juré de cette liberté, vous qui avez tant fait contre elle, vous dormez, paisible et inviolable, sous le toit du républicain. Il y a compensation, comme vous voyez. »« Oui, dit Geneviève, oui, cela ne durera point longtemps, car ce qui est injuste ne peut durer. Que voulez-vous dire ?» Je veux dire que moi, c'est-à-dire une aristocrate, moi qui rêve sournoisement la défaite de votre parti et la ruine de vos idées, moi qui conspire jusque dans votre maison le retour de l'ancien régime, moi qui, reconnu, vous condamne à mort et à la honte, selon vos opinions du moins, moi, Maurice, je ne resterai pas ici comme le mauvais génie de la maison, je ne vous entraînerai pas à l'échafaud. Où irez-vous, Geneviève ? Où j'irai ? Un jour que vous serez sorti, Maurice, j'irai me dénoncer moi-même sans dire d'où je viens. « Oh ! Cria Maurice, atteint jusqu'au plus profond du cœur. De l'ingratitude, déjà ?»« Non, répondit la jeune femme en jetant ses bras au cou de Maurice. Non, mon ami, de l'amour et de l'amour le plus dévoué, je vous le jure. Je n'ai pas voulu que mon frère fût pris et tué comme un rebelle. Je ne veux pas que mon amant soit pris et tué comme un traître. » « Vous ferez cela, Geneviève ?» s'écria Maurice. « Aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, » répondit la jeune femme. « D'ailleurs, ce n'est rien que d'avoir la crainte. J'ai le remords. » Il inclina la tête, comme si le remords était trop lourd à porter. « Oh, Geneviève, » dit Maurice. « Vous comprenez bien ce que je dis, et surtout ce que j'éprouve, Maurice, » continua Geneviève, « car ce remords, vous l'avez aussi. Vous savez, Maurice, que je me suis donné sans m'appartenir, que vous m'avez prise sans que j'eusse le droit de me donner. Assez, dit Maurice, assez. » Son front se plissa, et une sombre résolution brilla dans ses yeux si purs. « Je vous montrerai, Geneviève, continua le jeune homme, que je vous aime uniquement. Je vous donnerai la preuve que nul sacrifice n'est au-dessus de mon amour. Vous haïssez la France, et bien soit, nous quitterons la France. » Geneviève joignit les mains et regarda son amant avec une expression d'admiration enthousiaste. « Vous ne me trompez pas, Maurice, balbutia-t-elle. Quand vous ai-je trompé ? Demanda Maurice. Est-ce le jour où je me suis déshonoré pour vous acquérir ? » Geneviève rapprocha ses lèvres des lèvres de Maurice et resta, pour ainsi dire, suspendue au cou de son amant. « Oui, tu as raison, Maurice, dit-elle, et c'est moi qui me trompais. Ce que j'éprouve, ce n'est plus du remords. Peut-être est-ce une dégradation de mon âme, mais toi du moins tu la comprendras. Je t'aime trop pour éprouver un autre sentiment que la frayeur de te perdre. Allons bien loin, mon ami, allons là où personne ne pourra nous atteindre. Oh, merci, dit Maurice, transporté de joie. Mais comment fuir, dit Geneviève, tressaillant à cette horrible pensée. On n'échappe pas facilement aujourd'hui au poignard des assassins du 2 septembre ou à la hache des bourreaux du 21 janvier. Geneviève, dit Maurice, Dieu nous protège. Ensuite, une bonne action que j'ai voulu faire à propos de ce 2 septembre dont tu parlais tout à l'heure va porter sa récompense aujourd'hui. J'avais le désir de sauver un pauvre prêtre qui avait étudié avec moi. J'allais trouver Danton et, sur sa demande, le comité de salut public a signé un passeport pour ce malheureux et pour sa sœur. Ce passeport, Danton me le remit, mais le malheureux prêtre, au lieu de venir le chercher chez moi, comme je lui avais recommandé, a été s'enfermer au Carme. Il y est mort. Et ce passeport, dit Geneviève, je l'ai toujours, il vaut 1 million aujourd'hui, il vaut plus que cela, Geneviève, il vaut la vie, il vaut le bonheur. Oh mon Dieu, s'écria la jeune femme, soyez bénie. Maintenant, ma fortune consiste, tu le sais, en une terre que régit un vieux serviteur de la famille, patriote pur, âme loyale dans laquelle nous pouvons nous confier. Il m'en fera passer les revenus où je voudrai. En gagnant Boulogne, nous passerons chez lui. Où demeure-t-il donc? Près d'Abbeville. Quand partirons-nous, Maurice? Dans 1 heure. Il ne faut pas qu'on sache que nous partons. Personne ne le saura. Je cours chez Lorrain, il a un cabriolet sans cheval. Moi, j'ai un cheval sans voiture. Nous partirons aussitôt que je serai revenu. Toi, reste ici, Geneviève, prépare toutes choses pour ce départ. Nous avons besoin de peu de bagages. Nous rachèterons ce qui nous manquera en Angleterre. Je vais donner à Scaevola une commission qui l'éloigne. Lorrain lui expliquera ce soir notre départ et ce soir nous serons déjà loin. Mais en route, si l'on nous arrête, n'avons-nous point notre passeport? Nous allons chez Hubert, c'est le nom de cet intendant. Hubert fait partie de la municipalité d'Abbeville. D'Abbeville à Boulogne, il nous accompagne et nous sauvegarde. À Boulogne, nous achèterons ou fréterons une barque. Je puis d'ailleurs passer au comité et me faire donner une mission pour Abbeville. Mais non, pas de supercherie, n'est-ce pas, Geneviève? Gagnons notre bonheur en risquant notre vie. Oui, mon ami, et nous réussirons. Mais comme tu es parfumé ce matin, mon ami, dit la jeune femme en cachant son visage dans la poitrine de Maurice. C'est vrai, j'avais acheté un bouquet de violettes à ton intention ce matin, en passant devant le palais Égalité, mais en entrant ici, en te voyant si triste, je n'ai plus pensé qu'à te demander les causes de cette tristesse. Oh, donne-le-moi, et je te le rendrai. Geneviève respira l'odeur du bouquet avec cette espèce de fanatisme que les organisations nerveuses ont presque toujours pour les parfums. Tout à coup, ses yeux se mouillèrent de larmes. Qu'as-tu? Demanda Maurice. Pauvre Héloïse, murmura Geneviève. Ah oui, fit Maurice avec un soupir, mais pensons à nous, cher ami, et laissons les morts, de quelque parti qu'ils soient, dormir dans la tombe que le dévouement leur a creusée. Adieu, je pars. Reviens bien vite. En moins d'une demi-heure, je suis ici. Mais si Lorrain n'était pas chez lui? Oh, qu'importe, son domestique me connaît. Ne puis-je prendre chez lui tout ce qu'il me plaît, même en son absence, comme lui ferait ici? Bien, bien. Toi, ma Geneviève, prépare tout, en te bornant, comme tu le dis, au strict nécessaire. Il ne faut pas que notre départ ait l'air d'un déménagement. Sois tranquille. Le jeune homme fit un pas vers la porte. Maurice, dit Geneviève. Il se retourna et vit la jeune femme, les bras étendus vers lui. Au revoir, dit-il, mon amour, et bon courage. Dans 1 demi-heure, je suis de retour ici. Geneviève demeura seule, chargée, comme nous l'avons dit, des préparatifs du départ. Ces préparatifs, elle les accomplissait avec une espèce de fièvre. Tant qu'elle resterait à Paris, elle se faisait à elle-même l'effet d'être doublement coupable. Une fois hors de France, une fois à l'étranger, il lui semblait que son crime qui était plutôt celui de la fatalité que le sien, il lui semblait que son crime lui pèserait moins. Elle allait même jusqu'à espérer que dans la solitude et l'isolement, elle finirait par oublier qu'il existât d'autre homme que Maurice. Ils devaient fuir en Angleterre, c'était une chose convenue. Ils auraient là une petite maison, un petit cottage, bien seul, bien isolé, bien fermé à tous les yeux. Ils changeraient de nom et, de leur nom, ils en feraient un seul. Geneviève commença donc à disposer les objets qui étaient indispensables à leur voyage, ou plutôt à leur fuite. Elle avait déjà fait son choix, déjà dans l'attente des coffres qui devaient les enfermer, habits, linge, volume, couvraient les chaises, les canapés, le piano. Soudain, elle entendit la clé grincer dans la serrure. « Ah bon, dit-elle, c'est Skevola qui rentre. Maurice ne l'aurait-il pas rencontré ?» Elle continua sa besogne. Les portes du salon étaient ouvertes. Elle entendit l'officieux remuer dans l'antichambre. Justement, elle tenait un rouleau de musique et cherchait un lien pour l'assujettir. « Skevola, ajouta-t-elle. Me voici, dit une voix. » À l'accent de cette voix, Geneviève se retourna brusquement et poussa un cri terrible. « Mon mari ! » s'écria-t-elle. « Moi-même, dit avec calme Dixmer. » Geneviève était sur une chaise, élevant les bras, pour chercher dans une armoire un lien quelconque. Elle sentit que la tête lui tournait, elle étendit les bras et se laissa aller à la renverse, souhaitant de trouver un abîme au-dessous d'elle pour s'y précipiter. Dixmer la retint dans ses bras et la porta sur un canapé, où il s'assit. « Eh bien, qu'avez-vous donc, ma chère, et qu'y a-t-il ? » demanda Dixmer. « Ma présence produit-elle donc sur vous un si désagréable effet ?» La pauvre femme comprenait tout ce que Dixmer cachait de menaces sous le calme qu'il affectait. « Oui, ma chère enfant, continua le tanneur, c'est bien moi. Peut-être me croyez-vous bien loin de Paris, mais non, j'y suis resté. Le lendemain du jour où j'avais quitté la maison, je suis retourné, et j'ai vu à sa place un fort beau tas de cendres. Je me suis informé de vous, personne ne vous avait vu. Je me suis mis à votre recherche, et j'ai eu beaucoup de peine à vous trouver. J'avoue que je ne vous croyais pas ici. Cependant, j'en eus le soupçon, puisque, comme vous le voyez, je suis venu. Mais le principal est que me voici et que vous voilà. Comment se porte Maurice ? En vérité, je suis sûr que vous avez beaucoup souffert, vous, une si bonne royaliste, d'avoir été forcée de vivre sous le même toit qu'un républicain si fanatique. « Mon Dieu, murmura Geneviève, mon Dieu, ayez pitié de moi. » Après cela, continua Dixmer en regardant autour de lui, « ce qui me console, ma chère, c'est que vous êtes très bien logée ici et que vous ne paraissez pas avoir beaucoup souffert de la proscription. Moi, depuis l'incendie de notre maison et la ruine de notre fortune, j'ai erré assez à l'aventure, habitant le fond des caves, la cale des bateaux, quelquefois même les cloaques qui aboutissent à la Seine. » Geneviève cacha en sanglotant sa tête dans ses mains. « Non pas, continua Dixmer, que je m'en casse d'argent. J'ai, Dieu merci, emporté sur moi une trentaine de mille francs en or, ce qui vaut aujourd'hui 500 000 francs. Mais le moyen qu'un charbonnier, un pêcheur ou un chiffonnier tire des louis de sa poche pour acheter un morceau de fromage ou un saucisson, eh mon Dieu, oui, madame, j'ai successivement adopté ces trois costumes. » Aujourd'hui, pour mieux me déguiser, je suis patriote, en exagéré, en marseillais, je grasseille et je jure. La dame proscrit ne circule pas dans Paris aussi facilement qu'une jeune et jolie femme, et je n'avais pas le bonheur de connaître une républicaine ardente qui pût me cacher à tous les yeux. « Monsieur, monsieur, s'écria Geneviève, ayez pitié de moi, vous voyez bien que je meurs. » D'inquiétude, je comprends ça, vous avez été fort inquiète de moi, mais consolez-vous, me voilà, je reviens, et nous ne nous quitterons plus, madame. Oh, vous allez me tuer, s'écria Geneviève. Dixmer la regarda avec un sourire effrayant. Tuer une femme innocente, oh, madame, que dites-vous donc là? Il faut que le chagrin que vous a inspiré mon absence vous ait fait perdre l'esprit. « Monsieur, s'écria Geneviève, monsieur, je vous demande à main jointe de me tuer plutôt que de me torturer par de si cruelles railleries. Non, je ne suis pas innocente, oui, je suis criminelle, oui, je mérite la mort. Tuez-moi, monsieur, tuez-moi. » « Alors vous avouez que vous méritez la mort ? Frappez, monsieur, je ne pousserai pas un cri, et au lieu de la maudire, je bénirai la main qui me frappera. » « Non, madame, je ne vais pas vous frapper. Cependant, vous mourrez, c'est probable. Seulement, votre mort, au lieu d'être ignominieuse, comme vous pourriez le craindre, sera glorieuse à l'égal des plus belles morts. Remerciez-moi, madame, je vous punirai en vous immortalisant. Monsieur, que ferez-vous donc ? Vous poursuivrez le but vers lequel nous tendions, quand nous avons été interrompus dans notre route pour vous et pour moi, vous tomberez coupable, pour tous vous mourrez martyrs. Oh, mon Dieu, vous me rendez folle en me parlant ainsi. Où me conduisez-vous? Où m'entraînez-vous? À la mort, probablement. Ah, laissez-moi faire une prière, alors. C'est juste, dit Dixmer en se retirant dans l'autre chambre. Je vous attends. Il sortit du salon. Geneviève alla s'agenouiller devant le portrait, en serrant de ses deux mains son cœur prêt à se briser. « Maurice, dit-elle tout bas, pardonne-moi. Je ne m'attendais pas à être heureuse, mais j'espérais pouvoir te rendre heureux. Maurice, je t'enlève un bonheur qui faisait ta vie. Pardonne-moi ta mort, mon bien-aimé. » Et coupant une boucle de ses longs cheveux, elle la noua autour du bouquet de violettes et le déposa au bas du portrait, qui parut prendre, tout insensible qu'était cette toile muette, une expression douloureuse pour la voir partir. Du moins cela parut ainsi à Geneviève à travers ses larmes. « Eh bien, êtes-vous prête, madame ?» demanda Dixmer. « Déjà, murmura Geneviève. « Oh, prenez votre temps, madame, répliqua Dixmer, je ne suis pas pressé, moi. D'ailleurs, Maurice ne tardera probablement pas à rentrer, et je serai charmé de le remercier de l'hospitalité qu'il vous a donnée. » Geneviève tressaillit de terreur à cette idée que son amant et son mari pourraient se rencontrer. Elle se releva comme mue par un ressort. « C'est fini, monsieur, dit-elle, je suis prête. » Dixmer passa le premier. La tremblante Geneviève le suivit, les yeux à moitié fermés, la tête renversée en arrière. Ils montèrent dans un fiacre qui attendait à la porte. La voiture roula. Comme l'avait dit Geneviève, c'était fini.